French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Je pense que le voyage aussi, c'est une cure pour bien des maux. Je pense que quand ça va pas, partir c'est presque la meilleure chose à faire, enfin, ne serait-ce que pour se recentrer sur soi-même, que se connaître aussi. Donc voilà, je pense qu'elle voulait que je réalise mes rêves, et puis je pense que si elle savait que je suis en train de vivre aux États-Unis, elle serait trop contente, quoi. Elle serait trop fière, forcément, tu vois.
Salut, salut, c'est Anne Fleur. Bienvenue dans French Expat, le podcast de ceux qui sont partis et parfois revenus. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Houston au Texas, à la rencontre de Myrtille. Myrtille, vous la connaissez peut-être si vous avez écouté la saison 1 de French Expat, puisqu'elle avait répondu aux questions de Manon dans le cadre d'un hors-série spécial Saint-Valentin l'année dernière. Elle y racontait l'histoire d'amour qui la lie à son mari américain, Derek. Il y a environ 10 ans, alors que Myrtille et Derek vivent le début de leur histoire d'amour en France, la maman de Myrtille, alors âgée de 60 ans, est diagnostiquée d'une maladie qui fait peur, Alzheimer. Dans cet épisode un peu particulier, Myrtille revient avec beaucoup de recul, de transparence et de sagesse sur les 10 dernières années de sa vie. Comment être l'enfant d'un parent malade alors que l'on vit à l'étranger? Comment être la femme d'un Américain prêt à rentrer vivre aux États-Unis quand sa maman est malade? Comment vit-on la distance quand on ne peut plus s'appeler, plus se voir, voire même quand on est littéralement coincé dans son pays d'accueil ou interdit d'accès à son pays d'origine? Vous trouverez quelques éléments de réponse dans cet épisode. Je sais que ça a été difficile pour Myrtille de me raconter cette histoire, alors je compte sur vous pour l'accueillir avec toute la bienveillance qui vous caractérise. Belle écoute. Coucou Myrtille, ça fait un peu bizarre de dire bonjour, ça fait une demi-heure qu'on est en train d'essayer de faire marcher tout ça. Bienvenue dans French Expat. Certains d'entre vous, peut-être les plus fidèles auditeurs de French Expat, ont déjà entendu une partie de ton histoire. Aujourd'hui, on va parler de ton histoire parce que ton histoire, elle n'a pas changé, mais on va utiliser un angle un petit peu différent. On va parler de nos proches. On n'en parle pas super souvent, mais le fait que nos proches nous manquent, c'est que le début de l'histoire, finalement, de ce qui nous lie à notre famille, à nos amis, à nos proches. Ce lien, ça peut être un véritable moteur, ça peut aussi nous ralentir parfois, voire même nous faire sentir coupables. Et puis, je crois qu'il n'y a pas, en fait, une personne qui ne vit qu'un seul de ses sentiments. Je crois qu'on passe tous par un mix de tout ça. Et c'est pas facile quand on est une jeune femme qui a la vingtaine et qui se construit. Alors, du coup, je voudrais que tu m'expliques un petit peu de qui on va parler aujourd'hui.
Eh ben, aujourd'hui, c'est un peu un sujet douloureux, parce qu'on va parler un peu de ma maman, notamment, qui est malade. Bah, ma mère, c'est un peu celle qui est connue dans ma petite ville, parce que elle apprend à conduire à toute la ville, un petit peu. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui est très joyeux, très jovial, très sociable, puis qui fait passer sa vie avant... Enfin, qui fait passer les autres avant sa vie. Et ouais, toujours dans l'entraide, aider les gens, c'est son dada, c'est ma mère, et je sais pas.
Elle a quel âge aujourd'hui?
Je sais pas. On est en quelle année? 2021? Elle va avoir 70. Ouais, tu vois, je découvre qu'elle va avoir 70 ans. C'est fou.
Avant de parler d'elle, de parler de votre relation et de la relation vis-à-vis justement de ton expatriation et l'histoire de ta vie, est-ce que tu pourrais peut-être toi te représenter en quelques mots ?
Moi c'est Myrtille, j'ai 31 ans, j'ai grandi dans un petit village de l'Ain. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est aux États-Unis avec Derek, donc du coup on a eu l'épisode il y a quelques moi de ça.
T'es maman de deux enfants, c'est ça?
Ouais, voilà, je suis maman de deux enfants, deux petites filles, Emma et Mélina.
Une qui est née en France, l'autre qui est née aux US, c'est ça?
C'est ça.
Elles ont quel âge aujourd'hui?
Alors, il y a Emma qui est née à Cannes, en France, qui a 5 ans. Et il y a Mélina qui est née en Oklahoma et qui vient d'avoir 2 ans aussi.
D'accord, ok. Alors, pour retracer donc un petit peu l'histoire de ton expatriation, il y a tout pile 10 ans en fait, t'es en Bavière, 2011, tu participes à un stage intensif dans un resto étoilé en Allemagne, c'est là que tu rencontres Derek, 2014 que tu retournes en France et que tu t'installes à Cannes avec ton amoureux. Est-ce que tu peux me raconter justement un peu à quoi ressemble votre vie à ce moment-là? On va commencer l'histoire à ce moment-là.
Derek, il est parti un peu avant moi à Cannes, il est parti en 2013, en septembre 2013. Parce qu'il a trouvé du travail et moi à ce moment-là je comptais reprendre un peu mes études et j'avais trouvé une école vers Nice, donc on tapait un peu la Côte d'Azur. Du coup lui il a trouvé du travail assez rapidement parce qu'à ce moment-là il est devenu de manière légale pour travailler.
Toi tu faisais des études de quoi toi à ce moment-là?
D'hôtellerie-restauration. Lui il travaillait, moi je voulais poursuivre un peu mes études en me disant bah voilà c'est maintenant que je peux les faire, après ce sera trop tard. Donc voilà j'ai essayé de viser cette école. Et du coup, il est parti en septembre à Cannes tout seul parce que bah, du coup, moi, j'étais un peu bloquée avec les soucis de santé de ma mère. J'ai laissé partir et il a fait à peu près 6 mois. Septembre 2013, voilà, jusqu'à mars 2014, on était à distance Cannes et moi, j'étais dans l'Ain avec ma maman.
D'accord. Est-ce que tu veux bien revenir justement sur la découverte de la maladie de ta maman?
Je pense que c'était quand j'avais à peu près 18-19 ans, donc 2008-2009, où il y a eu un peu les premiers symptômes. Donc un peu, elle était plus fatiguée que d'habitude, elle avait un peu de mal à gérer ses papiers, ou elle passait trop de temps sur ses papiers, alors que d'habitude, voilà, elle ne mettait pas autant de temps à faire tout ça. Des petits signes comme ça, voilà, où elle n'avait plus trop envie de faire certaines choses.
Mais c'était des signes, rétrospectivement, tu sais ce que c'est, mais tu savais pas des signes de quoi, en fait, c'était à l'époque.
Ouais, c'était des petits trucs qui m'interpellaient, mais qui me faisaient pas m'inquiéter non plus, tu vois. À ce moment-là, moi, j'étais au lycée, je passais mon bac, tout ça, et en même temps, je travaillais dans des EHPAD. J'étais allée dans l'hôpital de ma ville, en fait, où ils ont un EHPAD, et j'avais travaillé tout l'été là-bas. Bon, déjà, j'ai bien aimé quand même y travailler et tout, même si j'avais un peu d'appréhension d'y aller parce que c'était, voilà, l'EHPAD, c'est quand même un monde assez particulier. Et en sortant de là-bas, même si j'ai apprécié l'expérience, je me suis dit, mais jamais de la vie, je mettrai mes parents là-bas s'il leur arrive une maladie ou quelque chose comme ça.
Pourquoi?
Bah, parce que je me rends bien compte que niveau personnel, bah, y a pas assez de monde, ils ont pas assez de moyens, en fait, tout simplement. Ils ont pas le temps de s'occuper de chaque personne, c'est quasiment à la chaîne, quoi.
Donc, tu travailles dans cette EHPAD pendant un, voire deux étés. Tu commences tes études que tu fais donc dans l'hôtellerie après ton bac, pas loin de chez ta maman. Et c'est à ce moment-là que vous découvrez vraiment sa maladie, c'est ça?
Je sais plus si c'est cette année-ci, ma première année de BTS, ou si c'était ma dernière année de bac. Mais c'est l'un des symptômes qui m'a un peu vraiment mis la puce à l'oreille en me disant il y a un truc qui est pas normal. C'était à ce moment-là, je travaillais justement en EHPAD pendant mes vacances d'hiver. Bah d'habitude, voilà, le réveillon de Noël, ma mère, mon père, ils sont plus ensemble, mais on fait toujours un Noël ensemble, etc. Ils sont toujours à fond les ballons derrière les cuisines, à préparer les choses et tout. Donc et là, je suis arrivée et ma mère, elle était pas du tout active, quoi. Elle était dans son fauteuil, en train de faire la sieste. Et ça, moi, ça me choquait.
C'était pas du tout son habitude, quoi.
Pas du tout, quoi. Je suis avec ma mère, enfin, elle est toujours comme ça à fond. Et puis Noël, c'est important, donc voilà. Et là, je l'ai vu sur son fauteuil en train de faire sa sieste. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis elle avait pas envie, elle était pas, pas là, quoi.
Quand est-ce que ta maman, en fait, découvre ce dont elle souffre? Ou quand est-ce que vous découvrez justement ce dont elle souffre?
Pendant l'année 2011, que vraiment là, je me suis dit, il y a quelque chose qui est pas normal. Donc en fait, 2011, ce qui s'est passé, c'est que avant mon stage en Allemagne, avant que je rencontre Derek, j'ai eu, en fait, bref, une relation amoureuse qui s'est terminée, mais pas très très bien. Et c'est là que je me suis dit, ma mère, elle est pas là, quoi. Elle est pas là pour m'aider. Elle était complètement dépassée par la situation et presque absente, quoi. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui est pas normal. Et puis, il y a eu d'autres signes. Perdre ses clés. Elle a eu quoi d'autre? toujours cette fatigue, le fait d'être perdu dans ses papiers, passer ses nuits jusqu'à 2h du matin à trier ses papiers sans finalement les trier, enfin brasser de l'air quoi. Puis ça a été ça, ça a été de plus retrouver sa voiture sur le parking. Donc de là, je me suis dit faut qu'on fasse quelque chose, enfin faut qu'elle voit quelqu'un. Et j'ai commencé en fait à en parler à ma tante, donc la sœur de ma maman. Et j'étais à ce moment-là en stage en Allemagne. Du coup, j'étais déjà partie. Et j'en ai parlé. Et je lui ai dit, ce serait bien qu'elle voit quelqu'un, qu'elle fasse des tests, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé tout le processus pour se faire diagnostiquer. Commencer à faire des tests basiques du style, tu vas chez le généraliste et puis on te demande de te rappeler 3 mots. Et à la fin de la consultation, on te dit, alors, c'est quoi les 3 mots que je vous ai dit en début de consultation? Et puis, bah, juste ça, elle a pas su. Donc, du coup, ça a lancé le processus de faire des tests bien plus poussés.
Et qu'est-ce qu'on soupçonnait alors à l'époque?
Bah, forcément ça, hein, c'était Alzheimer. Quoi.
Et du coup, quand vous avez eu le diagnostic de cette maladie, tu étais où? Tu vivais avec elle, justement, ou t'étais en Allemagne?
Ouais, j'étais toujours étudiante. En fait, j'étais toujours étudiante. À ce moment-là, Derek m'avait rejoint quand on a su le diagnostic. Donc, c'était en fait un an après, quoi. Un an après le début du processus de faire des tests.
Ça a duré un an, le diagnostic?
Wow. Ouais, quasiment un an, 2 mois après, quoi. Wow. Donc, ça a été super long. Et puis, bah, moi, de toute façon, il m'a pas fallu un an pour comprendre qu'elle avait ça. Donc,
ouais. Tu comprenais ce que ça pouvait impliquer, justement, sur le futur, sur...
Je crois que j'ai pas voulu chercher à comprendre. J'ai pris ça comme c'est venu, en fait. Je me suis pas posé des questions sur le futur à ce moment-là. Et ouais, enfin, je me suis blindée direct. En fait, il y a eu un test qui a été décisif. C'était quand je suis rentrée d'Allemagne, elle a fait un test avec une neuropsychologue. Et là, c'est vraiment le test poussé qu'on te fait. Donc, savoir lire l'heure, faire des dessins, savoir compter. Puis, bah, toutes les questions, elles s'enchaînent. Et je me dis, wow, il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas tout ça, quoi. Donc là, c'était vraiment, pour moi, c'était sûr et certain qu'elle avait Alzheimer, ou apparemment, il y a pas mal de degrés d'Alzheimer. Donc voilà, on disait, c'est peut-être pas forcément Alzheimer, c'est peut-être une sorte d'aphasie. Donc en gros, elle va perdre la parole, mais elle va se souvenir des choses. Il y a eu plein de petites possibilités, mais pour moi, c'était Alzheimer ou pas. Enfin, Alzheimer ou une autre, peu importe.
Finalement, peu importe le nom qu'on lui donne, quoi. C'est...
Ouais. Dans tous les cas, ouais, je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal.
D'accord.
Donc, du coup, tu m'as demandé où j'étais quand j'ai appris le vrai diagnostic. Donc à ce moment-là, j'étais, c'était en 2011, c'était en mai ou juin 2011. Et je m'apprêtais en fait à passer mes derniers examens de mon BTS, quoi. Il me restait un oral et c'était le lendemain, quoi. Et ce jour-là, ma mère, elle m'a appelée pour m'annoncer que tout simplement, le diagnostic qu'il était tombé, c'était Alzheimer, quoi.
C'est ta maman qui te l'a annoncé?
Ouais, elle me l'a annoncé par téléphone. Et en fait, ce qui était convenu avec ma tante, mes cousines, qui étaient dans la confidence de ça, parce que moi, j'étais en plein examen, donc je pense qu'elles m'ont un peu protégée sur ça. En fait, ma mère, ce qui était prévu, c'est qu'elle m'annonce ça après mes examens. Et là, je me suis dit, oui, elle a oublié. Donc, en fait, elle m'a annoncé ça la veille de mon dernier oral. Donc, moi, c'était le diagnostic qui était confirmé, mais c'était aussi la manière que ça a été fait et tout. Donc, je me suis dit, là, franchement, de toute façon, j'avais plus de doute. Mais ça m'a un peu, un peu blessée quand même.
Oui, bien sûr.
À ce moment-là, quand elle apprend le diagnostic, elle vient juste d'avoir 60 ans, en fait.
À Derek, du coup, tu lui en as beaucoup parlé à ta maman depuis votre rencontre? Parce que ça fait quoi? Ça fait un an ou deux que vous êtes ensemble à ce moment-là?
Ça fait quelques mois qu'on vit ensemble. Mais ouais, de suite, je lui ai parlé que ma maman, il y avait quelque chose qui allait pas quand on était en Allemagne, que je sentais bien qu'il y avait quelque chose, puis que j'étais un peu tracassée avec ma famille à distance, à essayer de planifier peut-être de lui faire passer des examens. Donc, il savait déjà tout ça. Et quand il est arrivé me rejoindre à Lyon... je crois que je lui ai dit tout de suite dans la voiture, tu sais, ma mère, je pense que c'est Alzheimer et j'en suis quasi certaine maintenant. Enfin, je le savais déjà, quoi, au fond de moi.
Et à ta maman, tu lui en as parlé de Derek avant tout ça?
Je m'en rappelais plus, mais oui. Ouais, j'en avais parlé un petit peu. Je lui dis, oh, tu sais, j'ai rencontré un petit Américain, et puis je parle anglais et tout ça. Donc elle, tout ce qui était langue, elle était super attirée par les langues, l'espagnol, l'anglais, enfin, ça la faisait rêver. Donc, mais ouais, c'était déjà un peu trop tard, quoi.
Avant tout ça, vous aviez quel type de relation avec ta maman ?
Je dirais pas fusionnelle, mais on était proches, mais on se prenait quand même beaucoup, beaucoup la tête. Mais on était quand même solidaires, quoi. On était toutes les deux à vivre toutes seules, donc on avait quand même un lien particulier. Mm-hmm. Voilà, solidaire entre nous, même si des fois, voilà, ça pouvait clasher, mais bon, il y avait quand même de l'amour, quoi. Puis ma mère, c'était un peu, tout le monde la connaissait, quoi. Dans la petite ville où j'étais, elle était monitrice d'auto-école, donc elle a fait passer le permis à tout le monde, quoi. Les mamans, les enfants, les tantes, les machins, tout le monde est passé, quoi. Donc, c'est vrai qu'elle était assez connue dans ma petite ville, puis par ses petites activités qu'elle faisait aussi, quoi.
Est-ce que tu te souviens justement de la rencontre entre Derek et ta maman ? Parce que lui ne parle pas français, si ?
Ouais, très peu, très peu. Quelques petits mots. Je me rappelle, déjà, il est arrivé, les symptômes de ma mère, ils étaient quand même assez prononcés. Je me rappelle que, par exemple, dès que je rentrais les week-ends de mes études, enfin, je rentrais tous les week-ends exprès parce que je voyais bien qu'elle avait de plus en plus de mal, ouais, à se gérer elle-même, ne serait-ce que pour cuisiner et pour gérer son frigo. Tous les week-ends, je rentrais et je jetais plein de nourriture qui était plus bonne. Enfin, voilà. Il y avait du grand laisser-aller, quoi. C'était pas du tout ma mère, quoi. Ma mère, elle était très rigoureuse, très organisée. Et elle a rencontré Derek à ce moment-là quand, ça commençait déjà à pas aller trop bien, où elle était plus trop là, quoi. Ouais, ça a été bien, mais je pense qu'elle a pas réalisé qui c'était, d'où il venait,
d'accord,
tout ça, quoi.
Ok. Alors, toi, à ce moment-là, donc, voilà, tu es en France. Vous partez vivre à Cannes, peu de temps après tout ça. Puis ta maman devient grand-mère, puisque c'est là que Emma a vu le jour.
Ouais.
Est-ce que elle réalise, est-ce que vous réalisez justement que voilà, vous avez une petite famille franco-américaine. Comment ça se passe avec ta maman à ce moment-là ?
Malheureusement, j'ai envie de te dire c'est trop tard, quoi. En fait, quand je tombe enceinte, c'est déjà trop tard. Pour tout dire, on a un peu rushé la situation d'être parent, un peu pour ma Moi, personnellement, j'ai un peu poussé les choses pour que ce soit pas trop tard et puis pour qu'elle puisse avoir ne serait-ce qu'une seconde où elle réalise qu'elle est grand-mère et tout ça, quoi. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu, quoi. Ça allait beaucoup plus vite que j'aurais imaginé. Fin de l'année 2014, on est obligé de l'hospitaliser, enfin de la faire prendre en charge totalement parce qu'elle est plus capable de se gérer toute seule, quoi. Puis moi, j'ai passé déjà 6 mois à distance avec Derek pour pouvoir m'occuper d'elle. Et après, on a trouvé, on a essayé plein de solutions pour la garder le plus longtemps à la maison, mais au bout d'un moment, on peut plus, il faut quelqu'un H24 avec elle. Donc, que ce soit ses frères et sœurs, que ce soit moi, on a tous un peu notre vie et, c'est un peu compliqué.
C'est très lourd à porter.
Puis c'est hyper lourd, c'est ça. Donc, on fait le choix de la placer dans un EHPAD. Et ce qui a été le plus dur, du coup, pour moi dans cette histoire, c'est que l'EHPAD dans lequel elle va, c'est en fait le même où je travaillais et pour lequel je te disais que j'ai bien aimé y travailler, mais voilà, je me suis rendu compte de plein de choses et j'avais dit en sortant à mes parents que jamais je les mettrais là-dedans, quoi qu'il arrive, quoi. Sauf que j'avais pas pensé que ça arriverait 2 ans plus tard avec ma mère et que à cet âge-là j'étais en pleine étude, plein dans mes études et donc voilà, il y avait pas d'autre choix que de malheureusement la placer dans l'endroit où j'avais juré que elle irait jamais. C'est comme un échec pour moi à ce moment-là parce que tu promets quelque chose et au final tu peux pas tenir ta promesse, t'as pas le choix. Il y a très peu de solutions qui s'offrent à nous à ce moment-là, donc on est obligé de choisir cette solution et ça fait mal, quoi. Ça fait mal de se dire, mais tu sais très bien ce qui l'attend là-bas et tu peux rien y faire, quoi. Voilà, c'est un sentiment de d'échec parce que voilà, je foire ma mission et puis c'est aussi un sentiment où t'as pas le choix, donc tu peux rien y faire. Donc elle y rentre en décembre de l'année 2014. Puis là, un peu tout s'enchaîne, Derek me fait sa demande, tout ça. Donc du coup, je me dis, je me dis, faut qu'on se dépêche. Je veux à tout prix que ma maman elle puisse connaître ça et tout, qu'elle soit grand-mère, qu'elle voit son petit enfant et tout. Donc ouais, elle me fait sa demande et tout. Et donc on va se marier aussi au Texas. Je le raconte dans l'autre épisode. Et en fait, pendant ce mariage, enfin pendant ce mois de février, donc on est en février 2015, deux mois après l'avoir placé. Donc je viens de me marier en fait et mon père il me dit écoute je voulais pas te déranger parce que voilà tu viens de te marier machin mais ta maman ça va pas du tout quoi. Et il m'a dit en gros dès que tu rentres de ton voyage du Texas tu viens tout de suite à Belay donc la ville où elle est parce que franchement ça va pas du tout. Et du coup là je découvre un peu ce qui s'est passé pendant mon mois d'absence au Texas, enfin une grosse évolution, je l'ai quitté au mois de décembre, elle dansait, elle chantait, on arrive encore à avoir des conversations quoi. Et là je la découvre au mois de mars, c'est un légume. Elle parle plus, elle marche plus. Elle a la tête qui penche sur le côté et puis ouais, c'est chaud quoi. Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Même si on sait que c'est la faute de personne, est-ce que toi, justement, t'as ce sentiment un peu de culpabilité? Tu te dis, mince, j'ai pas été là, ou comment tu vis tout ça?
Bah, c'est mal, et puis surtout, je suis en colère, parce que je me dis, il y a 3 mois, elle était pas comme ça, c'est pas possible qu'en 3 mois, quand même, ça évolue. Enfin, je vais pas remettre sur le dos des docteurs ce qui s'est passé. Enfin, voilà, je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais je pense qu'il y a eu des traitements qui étaient pas du tout appropriés à ma mère. Elle arrivait à l'hôpital, elle avait aucun traitement quoi, juste à part son traitement pour Alzheimer, elle était pas sous antidépresseur, elle avait pas des antidouleurs et puis en fait on l'a bourré de ça, ça s'est aggravé en quelques semaines quoi. Elle est passée d'une petite mamie qui danse et tout à un légume totalement. Donc voilà, en 3 mois, je me dis que c'est pas... je suis en colère et je trouve pas des réponses un peu à ce qui s'est passé et puis je me dis ouais j'étais pas là quoi. J'étais pas là, j'étais loin et tout donc.
D'accord. Donc, voilà. Et donc là tu découvres pas longtemps après ta grossesse?
C'est ça en fait, je rentre à Cannes et le mois d'après je vais voir ma mère tout de suite et puis le mois d'après je tombe enceinte et du coup c'est un peu je suis contente mais voilà je me dis c'est trop tard quoi. C'est trop tard de fou, quoi. Et puis, dans ma tête, là, à ce moment-là, on se dit, en plus, elle a fait des complications derrière tout ça. Elle a fait une fausse route qui lui a fait faire une infection pulmonaire et tout. Donc, elle était en soins intensifs. On misait pas grand-chose sur la suite, quoi. Pour moi, elle allait partir, quoi. Je me dis, je suis enceinte et tout. Elle va même pas voir ça. Puis, dans tous les cas, c'est un légume, donc... déçu que j'ai pas eu le temps quoi. Dans ma tête je me dis mais pars maintenant quoi. Au final je suis même prête à la laisser partir. D'un côté je suis déçue parce que elle me dit elle va pas connaître sa petite fille, mais d'un autre côté je me dis pars et puis je lui glisse dans l'oreille écoute ça va, tu peux y aller quoi. T'es sûr?
Trop tard.
Je lui glisse ça dans l'oreille mais du coup ma mère c'est une grosse battante et finalement, elle part pas, elle s'accroche et puis ça va aller mieux. Elle va même réapprendre à marcher. Elle va recommencer à parler parce qu'on arrête tous les traitements et tout. Et
ta petite fille voit le jour, Emma. Et vous, à ce moment-là, vous en êtes où de votre vie? Parce que en fait, en 2017, vous partez tout court, vers les États-Unis. Comment est-ce que vous vous projetez vis-à-vis du futur à ce moment-là? Vous savez que vous allez peut-être chercher des opportunités à l'étranger? Comment ça se passe?
Oui, on a un petit peu des pistes parce qu'en fait, le patron pour lequel Derek travaille à Cannes, lui, il a pour projet de vendre son resto à un moment donné. Le resto de Cannes pour acheter un restaurant, ouvrir un autre restaurant, mais aux États-Unis. Où, on sait pas, mais c'est son projet, et puis il a pour ambition de faire ça dans les prochaines années, quoi. Donc on est un peu sur les starting blocks en se disant, dès qu'il part, on le suit, quoi. En fait, c'était ça.
Vous voulez le suivre.
C'était ça. On le suit, peu importe où il va, on le suit, et ça permet à Derek de pouvoir rentrer chez lui et d'avoir déjà un projet professionnel.
D'accord.
Donc à ce moment-là, on est un peu, on se dit peut-être qu'on va partir, mais il y a rien de sûr quoi. Et Emma naît en décembre 2015.
Et alors donc du coup, comment est-ce que ça se passe ce départ? Et quand vous vous projetez justement dans ce futur, peut-être à l'étranger, vers les États-Unis avec le patron de Derek, j'imagine que tu penses aussi à ta maman. Comment, mm-hmm. J'imagine que c'est pas une décision, c'est ni une réflexion facile et encore moins une décision facile à prendre. Comment, mm-hmm. comment ça s'est passé?
Bah, ça s'est passé en plusieurs étapes, donc on a eu le temps de, tu vois, d'appréhender un peu la chose. Et puis, bah, déjà, moi, dès que j'ai rencontré Derek, dans ma tête, je savais qu'à un moment donné, il allait se passer qu'on allait rentrer aux États-Unis.
Ouais, tu le savais, d'accord.
Ouais, j'en étais sûre. Je me suis dit, il va pas rester toute sa vie en France et à un moment donné, il va vouloir rentrer. Et puis, bah, moi, par la même occasion, ça me dirait bien d'aller aux États-Unis, quoi, finalement, et puis de voir un peu comment ils vivent. Puis, donc, voilà, quoi. Donc, on a eu le temps de, voilà,
de se préparer.
Ouais, de nous préparer et puis de préparer un peu nos proches, même si je pense qu'ils ont été assez choqués quand finalement ça se fasse.
Ah ouais.
Parce que je pense qu'ils étaient plus, oui, bon, ils disent ça depuis des années, puis bon, bah, ils sont toujours là, quoi. Puis, bah, un jour, bah, on part dans 6 mois. Donc, voilà, ça a un peu choqué certaines personnes, mais bon.
Est-ce que tu as mis des choses en place particulières par rapport à ta relation avec ta maman, justement, au fait de partir bah, loin? Tu as le décalage horaire, tu as la distance, hein, tu sais tous ces goûts de trucs.
Ouais, bah, du coup, entre la naissance d'Emma, où ma mère, elle commençait à aller mieux, et puis notre départ, il y a quand même une évolution aussi dans sa maladie, ouais. Donc, elle a perdu la parole entre-temps. Enfin, tu vois, elle l'avait retrouvée, mais bon, ça n'a pas duré non plus longtemps. Mmh. Et puis, voilà, déjà, pour s'appeler, c'est compliqué. D'appeler quelqu'un qui te parle pas, quoi. Et bon, après, elle peut t'entendre, mais... Donc, déjà, ça...
Donc, tu savais avant de partir que ce serait pas facile de rester en contact régulier.
Ouais, c'était déjà beaucoup diminué au niveau du contact que je pouvais avoir avec elle, quoi, du fait qu'elle parlait plus.
Elle entend, elle comprend, si tu lui parles?
Si, elle avait encore des réactions et puis des contacts avec le regard, tu D'accord. vois. Donc, c'est un peu ce qui restait avec ça, quoi. Le contact, le fait d'entendre des chansons, tu voyais qu'elle se rappelait un petit peu, elle avait la petite mélodie qui venait, mais pour parler, c'était déjà compliqué. Donc, il y avait déjà un contact qui était un petit peu envolé, quoi.
Donc, du coup, vous annoncez votre départ 6 mois après. Ton mari, enfin, vous êtes mariée, oui, vous êtes mariée en 2015 en Oklahoma.
Non, au Texas.
Au Texas. Et là, vous partez en Oklahoma, merci. Donc, vous partez à 3. Comment se passe, du coup, le début de cette nouvelle vie?
Ouais, ça se passe relativement bien. On découvre l'Oklahoma, donc grosse découverte. Je connaissais pas du tout. Mm-hmm. Entre le moment où on part et le moment où Derek il commence vraiment à travailler, on a quelques mois, donc ça nous fait quelques mois d'immersion gentille, quoi. Puis on a eu le temps de revoir toute sa famille aussi avant de pouvoir aller en Oklahoma. On a fait tout le Texas en revoyant tous ses proches, ils ont pu voir Emma aussi qu'ils connaissaient pas.
C'est précieux aussi ça quand on s'expatrie d'avoir une famille qui t'accueille là où tu viens.
C'est sûr. Surtout que là, on n'avait pas de maison, rien du tout. Donc, en fait, on a fait nos petits campings chez les uns, chez les autres, tu vois. Donc, on a eu le temps de voir pas mal de gens et puis beaucoup de maisons.
Et toi, à l'époque, d'un point de vue immigration, t'étais sur quel visa?
Bah, en fait, on avait lancé les démarches avant de partir en France pour faire une demande de green card, vu que j'étais mariée déjà et en plus sur le territoire américain. En fait, on est arrivé en Oklahoma et on a tout refait. On a refait une autre demande, quoi, parce que c'était compliqué le fait d'avoir changé de pays, enfin d'adresse et en plus de pays. Ouais. Donc en fait, j'étais sous visa un peu touriste, quoi, au départ, je pense, et après on a fait la demande green card dans la foulée.
Et donc du coup, la green card, pendant que tu l'attends, bah tu ne peux pas sortir du pays.
C'est ça. C'est ce que j'avais pas non plus planifié, que ça allait se passer comme ça. C'est que ouais, ça a mis presque 2 ans et demi avant que je puisse rentrer entre la green card qui met du temps à venir et le fait que tu puisses pas sortir du territoire. Enfin, tu peux sortir, mais
tu peux pas revenir.
Après, tu peux pas rentrer. Voilà, où ça te crée des soucis. Et plus ma deuxième grossesse, quoi, qui tombe à ce moment-là, quoi, la toute fin, avant que je reçoive ma green card. Donc, ça fait que, ouais, il se passe 2 ans et demi sans que je puisse rentrer.
Et comment t'as vécu cette distance? Comment est-ce que t'as fait, justement, pour garder le contact avec ta maman à ce moment-là, avec le reste de ta famille?
Bah, ça a été compliqué à gérer émotionnellement, de se dire, bah, je suis coincée, s'il se passe quoi que ce soit, comment je fais pour y aller, quoi. Ouais. J'avais surtout peur, bah, qu'il lui arrive quelque chose, quoi, que ce soit la fin, forcément, c'est un peu ce qu'on pense depuis.
Ça doit être super dur, 2 ans et demi, à vivre avec cette angoisse.
C'est ça. Donc ouais, c'est un peu délicat à gérer comme émotion. Bien sûr. J'ai des nouvelles grâce à tous ceux qui sont en France, mon père, ma tante, mes cousines et tout, qui passent régulièrement voir ma mère, qui a des visites, tout ça. Donc j'ai des nouvelles grâce à ça, heureusement.
Justement, tes autres proches en France, ils ont compris ton départ ? On t'a soutenu dans ton projet d'expatriation ?
Dans la majorité, oui, on m'a soutenu. Parce que bah, je pense que de toute façon, ils ont bien vu qu'avec Derek, c'était du sérieux. Mm-hmm. Qu'en plus, on a eu Emma. Donc, ils se sont bien dit, ben, c'est logique qu'Alial, il habite là-bas aussi. Enfin, c'est son pays à lui. Donc, je pense qu'ils ont compris. Mm-hmm. Hein. Et puis, je pense qu'ils sont aussi contents pour moi que je m'arrête pas. Et puis, ouais, que voilà, je fasse ma vie aussi. Ouais. Quoi, c'est important.
Bien sûr. Si on parlait un petit peu de ta vie aussi, là, maintenant, aux États-Unis, tu me dis justement que tu as découvert donc ta seconde grossesse au moment où tu attendais ta green card aussi, ce qui fait que ça a mis un petit peu de temps et ça a rallongé le délai pendant lequel tu pouvais pas rentrer en France. Et tu m'as dit que tu avais une petite anecdote à partager autour de la découverte et de l'annonce de cette grossesse. Tu peux me raconter ?
Ouais, c'était mignon. Donc ça faisait quelques temps qu'on espérait avoir un deuxième et tout, et j'avais mis dans la confidence une de mes copines d'Oklahoma française, et je sais qu'elle est douée pour les photos, donc je lui avais dit, écoute, j'ai un petit truc, on aimerait bien avoir un petit deuxième, mais moi j'aimerais bien l'annoncer d'une certaine manière à Derek pour quand je le serai enceinte, quoi. L'idée c'était que en fait on fasse une séance photoshooting en famille. Et que avec un tableau, en fait, je lui annonce pendant le shooting, en fait, que bah j'étais enceinte, quoi. Les semaines passent et tout, et puis j'appelle toujours pas ma copine parce qu'elle fait rien, tu vois. Puis un jour, elle m'écrit, elle me dit, alors ça en est où ? Moi, je suis toujours à fond et tout. Je dis, bah écoute, tu sais pas quoi, j'ai du retard et tout. Alors bah écoute, demain ou après-demain, je fais un test et puis bah peut-être que ça sera bon, tu vois. Au moment où elle m'a écrit, bah, j'étais déjà enceinte et tout, donc on a fait ça. Du coup, il a fallu attendre 2 jours avant qu'on puisse tous se rencontrer. Donc,
c'est hyper dur de tenir le secret vis-à-vis de lui.
T'as pas idée, mon Dieu. Et en plus, j'avais un rendez-vous ce jour-là, enfin le lendemain, juste le jour où je lui ai annoncé, en fait, on avait un rendez-vous médical, genre pour ma green card, justement. C'est le fameux rendez-vous médical, et là, je me dis, ils vont me trouver que je suis enceinte. Pas possible. Je me suis dit, il va me palper, il va sentir, j'en sais rien. Enfin, il va me trouver quelque chose ou un test urinaire, ça va pas louper. Mais non.
Et alors, il a pris ça comment ?
Il s'y attendait pas du tout, mais je me suis dit, il va voir le panneau avant qu'on prenne les photos, c'est pas possible. Je lui ai dit, non, mais tu lis pas, t'inquiète pas. C'est ma copine, tu vois, elle écrit des petits mots, elle est un peu graphiste, elle veut juste faire ça sur sa photo, t'inquiète, tu verras après. Je me suis dit, il va pas m'écouter, il va regarder, il va se dire, mais attends, je fais pas une photo avec un truc, je sais même pas ce qui est écrit dessus. Mais non, il a rien vu, rien du tout. Et jusqu'à ce qu'on lui découvre, on lui dévoile le tableau en pleine photoshoot. C'est une grosse surprise et une grosse émotion. C'était mignon, quoi.
Un grand moment.
Mais c'était marrant. En plus, il y a des gens qui regardaient tout ça de loin et qui se disaient, oh là là, on va lui annoncer qu'il va être papa au mec, tu vois.
Ils avaient tous compris sauf lui.
Ouais, ils avaient tous compris sauf lui. Et du coup, quand ils ont vu que Derek était enfin au courant, il y avait des klaxons de partout. Ouais, félicitations et tout. C'était chou.
Tu me disais justement, quand tu partageais un peu par écrit ce dont on allait parler, qu'une de tes plus grandes difficultés, c'était vraiment de laisser tes proches derrière toi dans toute cette expatriation, d'avoir été aussi obligé, on en a parlé, d'attendre si longtemps ta green card et donc de pas pouvoir rentrer en France. En plus, la crise actuelle fait que c'est un peu comme une deuxième green card là que tu te fais, ma pauvre, sur les délais. Comment tu vis tout ça et t'en es où aujourd'hui là du coup ?
Bah, c'est vrai qu'avec la situation actuelle, je me retape une autre green card dans la tête là un petit peu, parce que ben tu peux pas trop rentrer. Après, il y a eu cette histoire de tu peux rentrer uniquement si quelqu'un décède dans ta famille, tu vois. Donc j'ai pas vécu très bien cette période, pour tout te dire. C'est vrai que c'est délicat que ce soit ici, parce que moi d'un côté je peux pas rentrer, mais dans l'autre sens, ma mère elle est aussi pénalisée dans le sens où elle a plus de visite. Et enfin, tu vois, ça a été des mois sans visite, après on réouvre les visites, après on referme, on réouvre, on referme, enfin tu vois. Ben, du coup je culpabilise de fou pour elle en ce moment, en me disant elle est toute seule, quoi. Et bon, elle est pas la seule, mais voilà, ça me fait mal en plus de me dire que personne peut aller la voir, quoi. Et en plus, ma mère, elle a eu le Covid l'automne dernier. Donc ça aussi, ça a été assez stressant. Mais bon, comme d'habitude, elle a survécu la chose, tu vois. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut l'atteindre. Donc tu vois. elle est encore là. Pas d'amélioration forcément, mais il n'y a pas de... Ça fait voilà, des années qu'elle est sur un niveau constant, quoi. Il n'y a pas de dégradation, voilà.
D'accord.
Globalement.
Ouais. Du coup, tu penses pouvoir retourner la voir dans les mois qui viennent ou...
J'espère, après, j'espère.
Ouais.
Après, c'est aussi une question de budget et c'est vrai que ça aussi... Le fait de rentrer en France, c'est quand même un coût financier. Je suis rentrée, c'était en 2019, je crois, quand t'as lancé le podcast d'ailleurs.
Est-ce que t'as une idée de à quoi ressemblerait ta vie si t'étais pas partie ?
Bah, bonne question, hein, franchement. Dans ma tête, je pense que je serais partie quoi qu'il arrive, avec ou sans direct. Enfin, ça faisait déjà des années que je me disais, il faut que je parte dans un pays étranger. C'était vraiment...
Pourquoi ?
Bah, en fait, quand je suis arrivée dans mon BTS d'hôtellerie-restauration, dans les premiers jours, on a eu, tu vois, des explications. Ils te présentent un peu ton cursus, quoi, comment ça va se passer. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, l'hôtellerie-restauration, tu peux trop voyager, en fait. Parce que moi, j'avais trop envie de partir un an quelque part, genre l'Australie, tu vois, c'était à la mode à l'époque, ça l'est toujours. Mais du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas combiner et les études et, enfin, tu vois, si ça peut me permettre de partir à l'étranger, ben, tout de suite, ça m'a bien plu. Ouais.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais te donner ou peut-être à d'autres expats, en fait, justement, qui ont soit ce besoin, soit cette opportunité d'aller voilà, faire une partie de leur vie ailleurs alors qu'ils ont, je sais pas, un être cher dans leur vie qui va pas pouvoir suivre, qui va pas pouvoir forcément voyager et qui ont du mal justement à franchir le pas ou... Est-ce que tu as, avec un peu de recul comme ça, tu as des conseils, des choses que tu aurais peut-être aimé entendre, que tu pourrais partager ?
Je pense que le voyage aussi, c'est une cure pour bien des maux. Je pense que quand ça va pas... Partir, c'est presque la meilleure chose à faire, enfin, ne serait-ce que pour se recentrer sur soi-même, que se connaître aussi. Parce que je pense qu'on en apprend plein sur soi-même quand on part à l'aventure. On n'a pas de but précis non plus, tu vois. Puis découvrir d'autres choses, quoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as peut-être eu, quand t'hésitais, ou qu'est-ce qui t'a aidé justement à sauter le pas, en fait, de dire peut-être que je suis jeune, j'ai besoin de me construire, j'ai besoin de me concentrer aussi sur moi, ou enfin, je sais pas, comment t'as...
Ben, moi, déjà, je voulais pas passer à côté de l'amour, en fait, que je vivais déjà avec Derek, donc déjà ça me maintenait à... Bah, pas rester ancrée juste autour de ma maman et à faire aussi des choix, quoi. Donc, à certains moments, j'ai fait le choix de prendre soin d'elle et de m'occuper d'elle, mais il y a un moment donné où je suis obligée de me penser à ce qui va se passer pour moi le futur et ce que j'ai aussi envie de faire maintenant. Et voilà, c'était aussi plein de possibilités, d'opportunités, donc voilà, il fallait savoir les saisir ou pas. Et puis, dans tous les cas, je me suis dit que ma mère, elle aurait pas voulu que je sois là, tu vois, à lui faire sa douche, à lui faire ci, enfin, elle aurait jamais voulu que je fasse ce que j'ai pu faire pour elle.
Elle avait un tempérament, elle profitait beaucoup de la vie, ta maman ?
Pas assez, je pense. Pas assez, hélas. Mais en fait, ma mère, elle vivait pour les autres, quoi.
Ouais.
Tu vois, c'était celle qui s'occupait de tout le monde, qui gérait les problèmes de tout le monde. Du coup, elle s'est un peu oubliée. Et, enfin, voilà. Elle consacrait sa vie aux autres. Soit ses proches, ses amis, tout ça, sa fille, forcément. Donc voilà, je pense qu'elle voulait que je réalise mes rêves. Et puis je pense que si elle savait que je suis en train de vivre aux États-Unis, bah, elle serait trop contente, quoi. Elle serait trop fière, forcément, tu vois. Que j'ai appris l'anglais en plus, alors ça...
Si tu penses, enfin, si elle comprenait là, ce que tu dis, tu lui dirais quoi ? Tu lui dirais un petit mot ? Tu lui dirais quoi ?
Bah, forcément qu'elle me manque, hein. Dans tout, ce qui vient tout de suite, c'est qu'elle me manque. Tu vois, j'aimerais trop que des fois elle m'appelle ou... Tu vois, c'est con, mais...
C'est pas con du tout.
Toujours... Non, mais tu vois, c'est... Tu vois, quand tu reçois un appel et tout, tu te dis, ah, peut-être que ça va s'écrire maman et tout, que ça va appeler, tu vois, mais non, mais... Donc forcément, c'est un peu compliqué sur ça, mais elle me manquait tout, mais après, j'aimerais certainement la remercier, tu vois, pour... Bah, faire en sorte que, finalement, j'étais préparée à ce que j'allais plus ou moins vivre, même si elle n'avait pas prévu qu'elle allait être malade, mais au moins, elle m'avait préparée à la dureté de la vie, tu vois. Donc, pour ça, ouais, je suis reconnaissante de m'avoir donné un peu de force, hein, sa force à elle, quoi. Parce que c'est toujours le cas, quoi. Elle est toujours là. Elle est plus là, mais elle est toujours là. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué aussi.
Bah ouais, j'imagine. En tout cas, t'es hyper forte. Tu me touches beaucoup dans ton témoignage. Je suis désolée si je suis pas, si je suis pas au taquet, mais je suis très touchée. Je pense que on s'identifie tous en fait un minimum, même si nos parents, nos proches ne vivent pas la même maladie. C'est, on peut pas s'empêcher en fait de se poser la question, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on, enfin. Et en fait, il y a pas de, enfin voilà, c'est ce que tu nous dis quoi. Il y a pas de recette, il y a pas de mode d'emploi en fait. On aimerait bien qu'il y ait un mode d'emploi qui nous dise quoi faire, comment gérer, comment faire tout ça. Donc, franchement, merci beaucoup de prendre le temps, même si je sais que ça remue des choses pas faciles, de nous raconter ton histoire.
Voilà, c'était nécessaire pour moi aussi d'en parler, enfin d'en parler quoi, parce que c'est vrai que c'est un sujet, moi j'en parle jamais quoi. Ouais. Donc bon.
Est-ce que t'as pensé à un moment, on sait. En tout cas, beaucoup de gens savent que le coût de la santé est horriblement cher et horriblement élevé aux États-Unis. Mais est-ce que vous avez imaginé peut-être justement de la rapatrier ici pour être proche de vous ?
Ouais, au début, même avant de partir, on avait déjà essayé de chercher si c'était possible. Mmh. Et d'un point de vue matériel et puis aussi financier, on a vite compris que ça pouvait le faire, ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que ouais, c'est vrai que c'est ça qui me frustre, parce que je me dis, si elle avait été malade un peu comme tous ces malades d'Alzheimer qui ont 80 ans, tu vois, ben moi j'aurais eu, je sais pas, 30, 40 ans, et enfin, j'avais pas 20 ans, quoi. Donc j'avais rien à 20 ans, donc je pouvais pas. Enfin, c'est frustrant, quoi. À 40 ans, j'aurais eu une vie, une maison, j'aurais pu l'accueillir. Alors que 20 ans, j'avais pas tout ça, quoi. Et puis même quand on est parti, quoi, on a tout vendu, et encore on n'avait pas grand chose non plus. Tu vois, on est parti avec nos petites valises, donc là c'était compliqué pour nous. Puis je pense que ma famille, ils auraient pas pu accepter de la laisser partir non plus. Ah ouais. Quoi. J'aurais bien aimé, j'y ai vraiment pensé, mais voilà. Je pense que ça allait être trop compliqué.
Ok. Merci beaucoup, Myrti.
Écoute, je t'en prie. Merci à toi.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et un grand merci à Myrti pour sa confiance et le partage de son témoignage, de son histoire avec sa maman. J'espère que cet épisode aura pu éclairer peut-être certains et certaines qui se posent des questions quant aux relations avec la famille qui est restée en France, à savoir si on peut partir, savoir si on doit partir, savoir si on doit rentrer aussi. Les sujets dont on a parlé aujourd'hui ne sont pas faciles, alors prenez soin de vous et de vos proches. Pour finir, un grand merci à vous pour votre fidélité chaque semaine. Je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode. À bientôt.
Moi, c'est Myrti, j'ai 30 ans maintenant, 31 en fait. Faudra que je la refasse. Je vais la refaire. J'ai oublié que j'avais 31.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!